Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Djamila Topin.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO, arrive à Ouagadougou demain dimanche 24 juillet. Il prendra part à une séance de travail avec le président de la transition, Paul-Henri Damiba. À la une également, les chauffeurs de la fonction publique réfléchissent sur leurs conditions de travail et leur contribution à la gestion du patrimoine roulant de l'État dans le contexte d'insécurité. Au Mali, Al-Qaïda du Sahel revendique l'attaque suicide qui a visé vendredi la ville garnison de Kati. Et puis, l'invité de la rédaction est Aboubacar Kéré, journaliste et promoteur culturel. Il revient entre autres sur sa carrière professionnelle et de son festival dédié à la femme battante. Ce sont les principaux titres. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Radio Méga. Oumarou Sissoko Embalo rencontre Paul-Henri Damiba demain à Ouagadougou. Le président de la Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko Embalo, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, arrive à Ouagadougou demain dimanche 24 juillet 2022. Il aura une séance de travail avec le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Ce sera l'occasion de faire le point de la situation particulière du Burkina Faso en dialogue avec la CEDEAO depuis le coup d'État du 24 janvier 2022. Urgence panafricaniste, une organisation qui avait appelé à un sit-in ce samedi devant l'ambassade de France pour dénoncer les propos du diplomate Luc Alat tenu le 14 juillet dernier, a annulé la manifestation. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse à Kourougou, Sabuna Ouédraogo.
Suite à la sortie médiatique du diplomate jeudi dernier à Ouagadougou qui a expliqué ses propos lors d'un point de presse avec le commandant de la force Barkhane, Urgence panafricaniste annule son mouvement. Boris Guissou, responsable d'Urgence panafricaniste Burkina.
Appel que nous reportons à une date ultérieure pour d'autres actions plus amplifiées et au niveau national avec d'autres structures pour demander le départ pas seulement de M. Alan, mais de tous les officines impérialistes français.
Si cette structure accuse la France d'impérialisme, elle reconnaît que ce pays n'est pas venu de lui-même au Burkina Faso. Boris Guissou.
Quand tu te fais voler à plusieurs reprises, à un certain moment, c'est toi le problème. Mais en même temps, on ne peut pas dédouaner la France parce que la colonisation n'a pas été demandée. L'esclavage n'a pas été demandé et tout. Donc, les responsabilités sont complètement partagées.
Urgence panafricaniste appelle les populations à fédérer leurs forces afin de sauver le Burkina Faso en proie à des attaques terroristes. Boris Guissou.
Je pense qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est à la croisée des chemins. Croisée des chemins où il faut qu'on abandonne notre égoïsme. Il faut qu'on abandonne nos querelles intestinales pour pouvoir se battre sérieusement. Sinon, on risque de perdre le Burkina Faso dans les mois à venir.
En marge de cette rencontre avec les journalistes, Urgence panafricaniste a officiellement installé sa représentation à Kourougou. Sabuna Ouédraogo, Kourougou, Radio Omega.
L'ambassadeur de France au Burkina, Luc Alat, a affirmé à propos de la question sécuritaire que l'absence de résultats provoque des frustrations de plus en plus fortes dans le pays et que ce conflit endogène est en réalité une guerre civile où une partie de la population se rebelle contre l'État et cherche à le renverser. Des propos à la fois discourtois et inamicaux a réagi le gouvernement burkinabé à travers une correspondance adressée à la mission diplomatique française au Burkina Faso est rendu public hier vendredi. Le syndicat national des chauffeurs de la fonction publique et du parapublic du Burkina Faso a tenu ce samedi 23 juillet 2022 à Ouagadougou son 5e congrès ordinaire autour du thème « Quelle contribution des chauffeurs de l'administration publique à la gestion du patrimoine roulant de l'État dans le contexte d'insécurité ?» Une occasion de dresser le bilan des activités menées au cours de son mandat et tracer des perspectives pour le futur bureau qui sera mis en place au cours de leur 5e congrès tenu ce samedi, le compte-rendu Chalda et Ibrahim Niaouné.
Ils sont en fin de mission les membres du bureau syndical des chauffeurs de la fonction publique et du parapublic. Il faut d'ores et déjà préparer le futur bureau afin qu'il porte au plus haut niveau les préoccupations des chauffeurs qui sont, entre autres, les conditions difficiles de travail dans certaines zones à fort défi sécuritaire. Marcel Zanti, secrétaire général de la CNTB.
Qui dit administration publique, dit présent de l'État partout sur le territoire national. Alors que vous êtes convenu avec moi que c'est les acteurs qui sont avec le véhicule de l'État. Et le véhicule de l'État est identifiable facilement à travers la plaque d'immatriculation. Donc c'est des exposés immédiats lorsqu'il y a en tout cas des attaques sur les voies dans les localités. Par conséquent, c'est des acteurs qui sont en tout cas au premier plan de l'insécurité auprès des zones, en tout cas, dans les zones de sécurité. Donc ce qui fait que, au jour d'aujourd'hui, ce thème-là permettra, je pense, hein, et j'en suis sûr, aux acteurs, aux membres de ce syndicat-là, de faire la réflexion et de ressortir les recommandations qui pourront être transmises à qui de droit, afin qu'on puisse apporter des réponses à leurs préoccupations pour permettre à ce qu'ils puissent agir normalement et qu'ils puissent faire en toute quiétude leur travail sur le terrain.
La condition de vie des chauffeurs dans l'administration publique s'est améliorée grâce aux efforts des syndicats. Aujourd'hui, un chauffeur qui a les qualités requises peut prendre part aux différents concours professionnels de la fonction publique. Marcel Zanté.
On a réussi en tout cas à faire prendre en compte les chauffeurs au niveau d'un certain nombre de textes, notamment le RIM, le répertoire interministériel des emplois de la fonction publique, qui aujourd'hui permet à un chauffeur de pouvoir passer des concours professionnels et évoluer dans sa carrière. Dans le temps, cela n'était pas possible. Vous rentrez chauffeur, vous sortez comme chauffeur. Et le bureau actuel a réussi en tout cas à permettre cela. Deuxième élément, c'est la revendication qui tient à vouloir qu'on puisse reclasser les chauffeurs en catégorie D, en respectant bien entendu les dispositions du décret 399, je pense, 2017, qui dit que le chauffeur est recruté sur la base du permis et du CEPE. Et directement avec cette disposition-là, normalement, les chauffeurs recrutés doivent être classés en D. Et c'est une de nos revendications phares pour le moment. Et nous sommes là-dessus, en tout cas, pour que cela voit le jour.
Les chauffeurs souhaiteraient aussi être impliqués dans la gestion du parc automobile de l'État afin de bien prendre soin des véhicules. Ils réclament aussi leur reclassement de la catégorie E à la catégorie D. Toutes ces revendications seront portées au ministère de tutelle par le nouveau bureau entrant pour un mandat de 5 ans.
Et l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie de la qualité Abinorm a organisé ce vendredi à Bobo-Dioulasso un atelier au profit des boulangers. L'objectif de cette rencontre est d'informer, de sensibiliser les acteurs clés des boulangeries sur le contrôle du poids du pain et des bonnes pratiques d'hygiène dans les boulangeries. Le reportage de Mamou Ouedraogo.
À travers cet atelier d'information et de sensibilisation, l'agence burkinabé de la normalisation de la métrologie et de la qualité Abinorm veut permettre aux boulangers d'avoir une connaissance sur les modalités de contrôle et de respect du poids du pain. Abdourahim Kinda, directeur régional de l'Abinorm dans le Haut-Bassin, explique.
À l'occasion des différents contrôles, il y a un constat qui se dégage, c'est le fait que beaucoup de boulangeries ne respectent pas le poids du pain. Soit par mauvaise foi des acteurs, soit par une méconnaissance des textes. Ce qui a inspiré l'Abinorm à organiser cet atelier pour donner l'information sur les modalités du contrôle aux acteurs.
L'initiative est bien accueillie par les participants qui s'enregistrent.
Cette formation elle est la bienvenue puisqu'elle vient encore nous éclaircir sur les bonnes pratiques de la fabrication du pain, prenne sur les sanctions à l'issue de la mauvaise conduite.
Ça nous permet de connaître bien la structure de l'Abinorm. Elle nous éclaircit déjà comment ils vont faire leur contrôle. Ça nous permet aussi de nous préparer pour les éventuels contrôles qui viendront.
Il est prévu des contrôles dans les boulangeries sur le respect du poids du pain. Les contrevenants seront sanctionnés conformément au texte en vigueur. Abdourahim Kinda.
Les acteurs seront informés sur les modalités de contrôle et à partir de cet atelier, les textes seront appliqués dans la plus grande rigueur. Que le non-respect du poids est une tromperie au consommateur. Et cette tromperie-là est sanctionnée d'abord par une amende qui va de 500 000 à 500 millions, mais aussi est sanctionnée d'une peine de prison d'un an à 5 ans, ou bien les deux à la fois.
La région des Hauts-Bassins est la deuxième région qui a abrité un atelier du genre, après celle du centre tenu le 18 juin dernier. Mamou Ouedraogo, Bobo Dilasso, Omega Media.
Le ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective a tenu ce vendredi 22 juillet la deuxième session ordinaire du Conseil d'administration du secteur ministériel CACEM de l'année 2022 à Ouagadougou. Cette deuxième session ordinaire est placée sous le thème « Rôle du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective dans la mise en œuvre du plan d'action de la transition ». Malgré le contexte sécuritaire difficile du pays, le CACEM dit avoir obtenu des résultats encourageants chiffrés à 1111 milliards de francs CFA, le compte-rendu de Marina Ouedraogo avec la voix de Judith Traoré.
Cette deuxième session ordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel sera consacrée à l'examen et à l'adoption du bilan à mi-parcours de la mise en œuvre annuelle du programme de travail. En matière de mobilisation de ressources, Aissata Sané dit avoir engrangé des résultats satisfaisants. Aissata Sané, directrice générale des études et des statistiques.
Les 6 premiers mois de l'année 2022 ont traversé une situation sécuritaire difficile qui a impacté négativement le déroulement des activités, mais les résultats obtenus sont encourageants. En matière de mobilisation des ressources, par exemple, nous avons enregistré un taux de recouvrement de 110, près de 111%. Donc c'est au total 1111 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés. Et par rapport à la mobilisation des ressources sur la même période en 2021, nous enregistrons une hausse de 169 milliards de francs CFA.
Pour le reste de l'année, le ministre en charge de l'économie, des finances et de la prospective, Abel Somé, entend maintenir le cap et poursuivre les efforts de mobilisation. Abel Somé, ministre de l'économie, des finances et de la prospective.
La mobilisation optimale des ressources pour le financement des projets de développement, la réalisation de l'achat et de l'utilisation des moyens pour les régimes de recettes, l'assèchement des sources d'approvisionnement des groupes armés terroristes en ressources de tout genre, le soutien au retour volontaire des personnes déplacées dans les zones d'origine et garantir leur sécurité, la rationalisation des dépenses et la transparence dans la reddition des comptes, l'informatisation du système des marchés publics et de la comptabilité matière, la réalisation de l'interconnexion des bases de données de toutes les régies de recettes et le respect des délais de traitement et de suivi des dossiers.
Organe participatif de gestion et d'évaluation du département ministériel, le présent CACEM se tient sous le thème « Rôle du ministère de l'économie, des finances et de la prospective dans la mise en œuvre du plan d'action de la transition ».
Cérémonie de passation de service au sein de l'autorité de régulation de la commande publique. Nommée en conseil des ministres du mercredi 6 juillet dernier, Modeste Yemwego a été officiellement installé ce vendredi 22 juillet à Ouagadougou. Il remplace à ce poste Taïrou Sanou. Bruno Bayala a été témoin de cette cérémonie d'installation, son compte rendu.
Par cette cérémonie de passation de service, Taïrou Sanou passe le témoin Modeste Yemwego, nommé en conseil des ministres du 6 juillet dernier. Le nouveau secrétaire permanent de la COP s'engage d'ores et déjà à travailler à améliorer le processus de gestion de la commande publique. Modeste Yemwego, secrétaire permanent entrant de la COP.
Je prends l'engagement de mener à bien en fait cette mission qu'on nous a confiée. Donc, pour nos missions dans ce contexte d'insécurité, je crois que le gouvernement a déjà pris en fait des mesures dans ce sens. Nous ne ferons que sillonner en fait dans ce sens-là, donc pour permettre en fait une gestion transparente et efficace de la commande publique à la satisfaction des populations.
Des populations qui ont constaté durant ces 6 dernières années des avancées majeures au sein de l'autorité de régulation de la commande publique selon le RENLAC. Une fierté pour le secrétaire permanent sortant, Taïro Sanou, qui réitère ses remerciements à l'ensemble de ses collaborateurs.
Ces résultats traduisent le sacrifice et la sueur des membres de l'ensemble des organes de l'ARCO. Je voudrais traduire toute ma reconnaissance et ma gratitude aux membres du Conseil de régulation. À l'heure du bilan où nous sommes aujourd'hui, il y a des acquis enregistrés grâce au dévouement et à la loyauté de chacun d'entre vous. Nous devons tous, toute proportion gardée, nous féliciter de ces résultats, tout en restant conscients des défis qui restent à relever.
L'autorité de régulation de la commande publique a pour mission la régulation des marchés publics et des délégations de services publics. Elle est aussi chargée de la discipline et du règlement non juridictionnel des différends en matière de commande publique.
Après Ouagadougou, c'est au tour de Bobodjou Lasso de bénéficier d'un hall motocycle équipé d'une interconnexion entre le CCVA et la Direction régionale des Hauts-Bassins. Ces systèmes permettront de renforcer le réseau des visites techniques des détenteurs d'engins de tout genre dans la cité de Sia. L'inauguration de ce hall est intervenue ce vendredi 22 juillet à Bobodjou Lasso en présence de Paul Soma, son reportage.
Désormais, tous les détenteurs de véhicules motorisés à deux roues, conducteurs de tricycles et de quadricycles de Bobodjou Lasso pourront effectuer les visites techniques de leurs engins sur un plateau opérationnel en répondant aux standards internationaux. Il s'agit d'un hall de contrôle technique équipé qui servira sans doute à sensibiliser davantage les transporteurs et les usagers sur la nécessité de faire la visite technique des engins afin d'assurer la sécurité routière dans la région des Hauts-Bassins. Mamadou Cissé, directeur du cabinet du ministre en charge des transports.
Il est avéré qu'il y a trois causes essentielles à l'origine de l'insécurité routière. C'est l'homme, c'est la route et c'est les moyens de déplacement. L'inauguration de ce hall ce matin participe des efforts du gouvernement conformément à la charte de la transition d'améliorer la sécurité routière.
En plus de ce hall technique, le centre de contrôle des véhicules automobiles a également inauguré un système d'interconnexion entre sa structure et la direction régionale des transports des Hauts-Bassins. Zalissa Koumaré est la directrice générale du CCVA.
Si le processus c'est manuel, ça veut dire que c'est le client qui vient retirer le certificat de conformité, qui va le remettre à la DGTTM. Il y a de fortes chances qu'il y ait des manipulations en cours de route. C'est pour ça que nous avons décidé de cette interconnexion.
Conscient des conséquences liées aux défaillances des engins en circulation, les conducteurs de tricycles de Bobodjou Lasso ont marqué leur adhésion à ces règles établies en matière de sécurité routière. Tidiane Kologo, président du syndicat des tricycles des Hauts-Bassins.
Interpelle tous les conducteurs de tricycles, chacun encore venu faire les visites techniques, voire pour circuler librement.
Ce hall motocycle de Bobodjou Lasso est d'une valeur de 100 millions de francs CFA, avec un équipement complet selon la directrice générale du CCVA. Paul Soma, Bobo, Omega Media.
Hors de chez nous, au Mali, la Katiba Massina, affiliée à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque suicide au Mali qui a visé vendredi la ville garnison de Kati, cœur de l'appareil militaire et résidence du chef de la junte au pouvoir. Au moins un soldat a été tué dans cette attaque inédite sur cette base stratégique située à seulement une quinzaine de kilomètres de Bamako. Adams Khaled Ouedraogo pour plus de précisions.
La Katiba Massina, affiliée à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque suicide au Mali qui a visé le camp de Kati dans un communiqué authentifié ce samedi 23 juillet par l'ONG américaine CITES spécialisée dans le suivi des groupes radicaux. Une brigade de Moudjahidin a mené une opération bénie contre l'armée malienne, l'injuste tueuse d'innocents, à l'endroit le plus notoire de la capitale Bamako, près du siège du président et du ministre de la Défense, indique le communiqué repris par l'AFP. Si vous avez le droit d'engager des mercenaires pour tuer des innocents sans défense, alors nous avons le droit de vous détruire et de vous cibler, poursuit le communiqué. L'attaque perpétrée contre la ville garnison de Kati le vendredi 22 juillet a fait un mort et 6 blessés, dont un civil selon un bilan officiel provisoire. 7 assaillants ont été neutralisés et 8 autres avaient également été interpellés, toujours selon l'armée malienne.
L'invité du jour.
Notre invité du jour est Aboubacar Kéré, plus connu sous le pseudonyme de Kerzon, journaliste et promoteur culturel. Il nous parle de sa carrière professionnelle, de ses plus belles émissions, de son festival dédié à la femme battante. Kerzon est au micro de Régis Boni.
Kerzon, bonjour.
Bonjour. Alors, on va demander à Kerzon de se présenter pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas.
Mais à l'état civil, Kéré Aboubacar Kerzon. Au niveau des médias, je suis journaliste culturel actuellement en service aux éditions Le Pays pour le magazine Évasion.
D'accord.
Voilà. Passé toute ma vie dans les médias au niveau d'Horizon FM avec une aventure qui a commencé en décembre 1994. Après, deux ans après 96, je me suis retrouvé à Horizon FM Bobo. Après, Banfora et moi, j'ai perdu le papa à Abidjan et je suis reparti et je suis revenu. Et puis Horizon FM 1998.
D'accord.
Et occupé des postes en 2001 comme directeur régional Horizon FM Kaya. Donc la voix d'Or San Matenga. Après, j'ai été également au niveau de la télévision SMTV en tant que présentateur d'une émission qui diffuse des clips, tu vois. Les années passent après, voilà, le disque dur,
voilà, on perd un peu le
film. Et puis, quoi, c'était, tu vois, voilà, tu vois, tu me prends en porte-à-faux.
D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Kerzon n'est pas que journaliste, il est aussi promoteur culturel. Alors, Kerzon, peut-il nous parler de son côté promoteur culturel?
Oui, promoteur culturel, ça veut dire que c'est une fibre hein, depuis Koudougou, au début de ma carrière en tant que animateur radio, journaliste
D'accord.
culturel.
D'accord.
J'avais Podium Plus ça, je ne peux pas l'oublier, qui
D'accord.
fut mon premier projet, qui était un concept où on trouvait des groupes de danse, des chorégraphes au niveau de Koudougou, mais c'était au niveau des établissements scolaires, secondaires du côté de Koudougou, Podium Plus. Après, je me suis retrouvé à Ouaga en 98. Après, donc, comme ce que je l'avais dit, dans les maquis, ça a commencé avec le casting, les grands danseurs de la capitale
D'accord.
à l'époque. Et puis, j'ai essayé de greffer avec des artistes musiciens. Beaucoup de vedettes du Burkina, ils D'accord. sont passés.
Okay.
Ida Kwasabé, Martin Terry, Alchango qui est en France, ils sont plein MCZ, ils sont pleins qui sont passés sur mon podium, bon, on n'est pas cité de maquis, quand même
D'accord.
il y a un nombre de maquis que nous avons fait pour promouvoir donc la culture du Burkina, des artistes et puis également les danseurs.
D'accord. Alors on sait que Kerzon qu'on appelle le chef du village, le Djandjou comme on le dit, mais c'est pas péjoratif, c'est pour dire qu'il accompagne la femme. Alors peut-il nous parler de ce côté là, puisque il y a un festival que tu prépares.
Oui, Djandjou, je sais qu'il y a une cérémonie de dédicace d'un des albums de Desi Bofola. Desi Frank Siambo à l'époque, et puis c'est Desi Bofola aujourd'hui. Il avait une chanson Djandjou, garçon Djandjou. Moi, je lui ai posé une question à la cérémonie de dédicace Djandjou. Que parle de la chanson Djandjou? Il m'a dit, mais c'est de toi que je parle. Au fait, je m'entends beaucoup plus avec la femme. Donc, moi, depuis la tendre enfance, j'ai toujours été du côté de la femme. Et raison pour laquelle, donc, avec l'évolution du temps, des choses, je me suis dit, pourquoi ne pas penser à magnifier la femme?
D'accord.
Et aujourd'hui, je me retrouve dans une organisation où je magnifie la femme.
D'accord. Alors, cette organisation, c'est le Burkina Musso Oscar, le BUMO, qui a sa 7e édition. Alors, cette année, quelle est la particularité de cette édition qui se tient dans un contexte sécuritaire que l'on connaît actuellement?
Aujourd'hui, nous sommes à notre 7e édition.
D'accord.
Tout d'abord, dis merci à tous ceux qui ont cru en ce projet.
Okay.
Merci à tous ceux qui... parce que Burkina, c'est pas simple. Quand les gens n'ont pas d'idée. Et quand tu crées, d'autres créent qui ont plus de moyens, plus que toi, créer des projets similaires juste pour éteindre ton projet.
Okay.
Moi, j'ai fait la première édition de Burkina Musso Oscar, la deuxième édition, j'ai vu un projet similaire. Je me dis, la photocopie ne peut jamais ressembler à l'original.
D'accord.
Donc,
okay.
le projet, c'est de récompenser la femme battante. La femme battante dans son domaine d'activité. C'est vrai que la femme marginalisée dans notre contexte social, malgré les les pesanteurs socioculturelles, la femme arrive à sortir de l'ordinaire qui apporte sa contribution au développement de notre chère patrie qu'on aime tous, le Burkina Faso. Et quand une dame part du néant à être un modèle pour une génération, je pense qu'à un certain moment, il faut marquer un arrêt pour lui témoigner cette reconnaissance. Ainsi est parti donc ce projet Burkina Moussoska Bumo à sa 7e édition qui a lieu donc ce samedi 23 juillet 2022 du côté de Sonia Hotel à 20h.
D'accord. Alors, ton dernier mot ?
Mon dernier mot, c'est dire merci. Merci à la femme. Merci à la femme parce que quand on a la bénédiction de la femme, on a la bénédiction de Dieu.
Merci, Carson.
Merci, Régis. Merci, Omega.
Et c'est ici que prend fin ce journal réalisé par Fidel Compaoré à la présentation. Je suis Djamila Setopan. Merci à vous de l'avoir suivi et restez connectés sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.